Truc, astuce, conseil santé. Voici votre pharmacien Martin Bocage de la pharmacie Uniprix Martin Bocage au 914 boulevard Maloney Est et 22 rue des Flandres, secteur Gatineau.
Votre point de repère.
OK, à cette heure-ci, le lundi, c'est la chronique santé. Tout de suite, on va aller retrouver notre pharmacien Martin Bocage. Salut, Martin.
Salut, Philippe.
D'abord, le point sur la vaccination en pharmacie. Une semaine plus tard, est-ce que ça va comme prévu?
Écoute, ça va très, très bien. On avait peur un peu de la perception des patients, en fait, par rapport à la vaccination, d'un surplus d'achalandage, en fait, avec la vaccination. Ça se passe extrêmement bien, je dirais. Les gens répondent bien, ils s'inscrivent. Je te dirais même que quand on met un rendez-vous en ligne sur le site de Clic Santé, ça dure 10 minutes qu'il est parti.
Ouais, ben en pharmacie, hein, c'est pratique, là. Je veux dire, moi, je suis allé au Palais des Congrès hier, alors c'était un peu plus compliqué. Ça va bien quand même, mais je veux dire, trouver le stationnement, faire la file d'attente un petit peu, tandis qu'en pharmacie, c'est souvent dans notre quartier, c'est probablement le scénario idéal. Le CISO nous disait qu'on a vacciné moins de monde en fin de semaine en Outaouais parce qu'il restait seulement du AstraZeneca. Est-ce que c'est la même chose en pharmacie?
Oui, c'est ça. Bien, on attend des arrivages, en fait, pour le vaccin Moderna. AstraZeneca aussi, on en a un peu. Il y a eu une baisse de notre côté, puisque, évidemment, il y a une légère pénurie, donc on préfère garder les doses du côté public. C'est normal, il n'y a pas de problème. Mais on devrait recommencer en force dans les prochaines semaines. Cette semaine, ça va être des doses qui ont été réservées, puis après ça, bien, on attend les prochaines qui devraient arriver. Puis, tu vois, dans le fond, déjà, là, nous, de notre côté, à peu près 1300 personnes d'inscrits. En vaccination, c'est quand même beaucoup. Si on se compare en vaccination grippe, quand on fait de la vaccination de masse, là, on en a à peu près 1500, mais sur 2 mois, alors que là, on a 1300 dans de quelques semaines, donc c'est énorme, là.
Quand tu dis 1300, tu veux dire pour tes 3 pharmacies?
Juste pour une pharmacie. Absolument. Donc, tu sais, normalement, tu sais, nous, on va passer à peu près 1200-1500 doses à peu près dans 2 mois pour la vaccination grippe, pour donner une idée. Puis là, on est à 1300 doses dans le temps de 3 semaines. Donc, c'est pas le même niveau, mais on tient le coup et on était bien préparé. Je pense que c'est le même aussi pour l'ensemble, là, avec l'association, la QPP, qui a fait un bon travail de communication. C'est sûr, il faut rester alerte. Là, les conditions changent, ça change rapidement. Fait que on s'habitue, puis non, ça va quand même bien. Les gens répondent bien, les gens fonctionnent bien dans le modèle. Et puis, non, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'appréciation. On a même eu une personne qu'on a faite dans le stationnement tantôt, en fait, parce que c'est une personne en jeu, qui ne voulait pas rentrer en sécurité.
Ah oui?
Ben oui, certainement, c'est arrivé. Je te dirais, on fait pas ça souvent, mais là, tu sais, pour aider, ça peut aider quelqu'un. C'est une personne, une dame de plus de 90 ans, son fils qui était là, qui réside avec elle. Je voulais pas l'amener à l'intérieur, donc on a fait ça aussi pour elle. Donc, ça s'est bien passé. C'est des histoires un peu loufoques, mais écoute, ça peut aider. On est là pour ça, évidemment.
J'ai vu, moi, hier, une personne qui est tombée sans connaissance après avoir reçu son vaccin au Palais des Congrès. Là, un choc vagal, m'a-t-on dit. Ça doit arriver de temps en temps en pharmacie aussi, ce genre de situation-là?
Mais c'est toujours surprenant. Hein? Puis quand les gens voient ça, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que les gens, surtout en ce moment, c'est un sujet qui est très, très émotif, en fait, la vaccination COVID. Donc, quand une personne arrive en vaccination, on se sent un peu plus stressé, plus nerveux. Et là, c'est là qu'à ce moment-là que ça peut plus se produire. Donc, nous, ce qu'on fait, puis je pense que c'est pour l'ensemble des personnes, des fois, ça peut être la peur de l'aiguille aussi, il ne faut pas oublier. Hein? Oh, là, ça va-tu faire mal, tu sais?
Exact.
Puis, ça nous dérange moins quasiment faire une prise de sang parce que, mais là, on injecte un produit pour lequel on a moins d'informations. Puis là, ben, ça suscite un peu plus d'inquiétude chez les gens. Fait qu'il faut bien, de notre côté, il faut bien les rassurer. Mais quand ça se produit, ça nous est arrivé plus en situation de vaccination grippe. Ça ne nous est pas arrivé encore en vaccination COVID. Mais ça n'empêche pas que ça peut arriver pareil. Puis c'est pas en lien avec le vaccin. C'est juste parce que c'est en lien plutôt avec le côté émotif, en fait, de la situation, l'anxiété de la vaccination. Ça va-tu faire mal? Oh, c'est un produit qu'on injecte vraiment dans moi.
Ouais.
Ça va-tu être correct? Je vais-tu avoir des problèmes?
En passant, ça fait bien moins mal qu'une prise de sang, je le confirme. C'est à peine si on sent quelque chose.
C'est ça. Je me suis exercé moi-même là, comme pharmacien, parce que maintenant, on a cette possibilité-là, puis les gens sont tous contents. Genre, mon Dieu, je pensais que c'était pour faire mal. Oh, mon Dieu. Puis finalement, non. Les gens, des fois, ils disent, c'est déjà fini. Ben oui, c'est déjà fini. Il n'y a pas plus que ça.
Une petite chaleur à peine.
Oui, exact.
Ouais. OK. Autre sujet maintenant qui a fait la manchette en fin de semaine, la consommation de médicaments pour traiter les problèmes de dépression continue de monter au Québec. Là, c'est la province où on en consomme le plus. D'abord, comment on explique ça, Martin?
Ben c'est sûr que c'est beaucoup de changements. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On s'est fait bousculer. On s'est pas fait. On nous a pas demandé dans cette situation comme ça. Donc il y a beaucoup de changements au niveau des habitudes de vie, changements au niveau du travail. Des gens qui apprennent à être parents plus que d'habitude parce que peut-être que pour eux c'était le fait que les enfants sont à la maison. Donc tout ce changement-là fait une grosse pression au niveau. Oui. Des symptômes qu'on pourrait développer, soit de l'anxiété, soit de la dépression. En télétravail, on est habitué de voir des gens, on ne voit pas d'autres personnes. Donc, c'est sûr que tout ça change beaucoup la donne.
Mais ça, c'est vrai dans les autres provinces aussi. Je comprends que le Québec a été une des provinces les plus touchées. Là, en ce moment, c'est plus l'Ontario. Mais ça monte plus ici.
Oui, bien, c'est sûr. Au niveau des symptômes en tant que tel, moi, je dirais, ce qu'il faut faire attention dans le sondage qui a été émis, qui est passé dans les médias, c'est que tout dépend aussi de comment on prend en charge, la dépression. C'est une maladie qui est encore peu divulguée chez les gens. On a peur, de divulguer. Donc, quand on se met à scruter davantage, on peut trouver plus de personnes qu'on ne penserait au départ. Fait que je suis pas prêt à dire nécessairement plus une place qu'une autre, comme tu dis. Moi, je pense que c'est un peu partout là, similaire. Peut-être que si dans certaines provinces, on scrutait davantage, on trouverait peut-être plus de personnes qui souffraient soit d'anxiété ou de troubles de l'humeur. Puis d'un autre côté, je comprends aussi ce qui a été écrit. Est-ce qu'on surprescrit cette situation-là? Avant de penser à ça, il faut juste comprendre comment on diagnostique une dépression. C'est souvent des symptômes, c'est basé principalement sur des symptômes. Tu sais, quand on regarde, hypertension, cholestérol, diabète, c'est tous des chiffres. On peut pas se cacher. On fait une prise de sang, on prend un appareil pour prendre la pression. Le chiffre est le chiffre. Alors que dans le cas de la dépression ou de l'anxiété...
C'est moins une science exacte.
C'est pas une science exacte. Des choses sont assez subjectives. Donc, une journée, on répond au questionnaire, on peut répondre plus sombre qu'il ne le serait vraiment.
Oui.
Fait que ça prend un historique derrière tout ça. Il faut faire un suivi. Puis, effectivement, ça peut mener à une peu plus grande quantité de prescriptions. Par contre, à l'inverse, on sous-diagnostiquerait, cette situation-là serait plus problématique encore. Fait que c'est dur de dire, que nous, on est plus consommateurs que les autres. Moi, je pense que ce qui est important, c'est la prise en charge. C'est important d'avoir un bel historique sur la personne, puis de faire un bon diagnostic, puis de traiter les gens qui en ont vraiment besoin. Ceux qui n'en ont pas besoin, on va quand même s'en apercevoir en cours de route au fil des prescriptions, quand même. Mais moi, je préfère avoir plus de personnes, qui sont traitées que moins, parce que moins engendre d'autres conséquences, que ce soit sur le travail, que ce soit sur la vie familiale, que ce soit sur le côté social.
Ou même des cas de suicide, là, oui.
Justement, c'est ça que je m'en venais là-dessus. C'est des cas de suicide qui peuvent ressortir. Donc, c'est important, de bien prendre en charge les gens à ce niveau-là. Moi, je pense que l'INSPQ, là, qui est l'Organisation de santé publique au Québec, je pense qu'ils font un très beau travail. Il y a un site internet qui est monté là-dessus. On en parle beaucoup. Je pense qu'il faut vraiment que les gens se sentent bien à l'aise à ce niveau-là. Actuellement, du côté du fait qu'il y a la COVID-19 qui est en vigueur depuis déjà un an, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de difficultés d'adaptation, qui ne sont pas nécessairement qui ressortent des symptômes dépressifs, mais qui du fait qu'on est éduqué plus au niveau à s'adapter à la situation, nous amène de ce côté-là à faire un sur diagnostic en tant que tel. Mais c'est pas grave, il faut faire la suite des choses.
On parle beaucoup de dépression, beaucoup plus qu'avant, puis peut-être plus au Québec, là, ça explique peut-être des choses, mais c'est peut-être plus ou moins clair pour quelqu'un qui a jamais connu ça, les premiers symptômes, et surtout, quand est-ce qu'on doit aller consulter?
C'est ça, exactement. Donc, à cet effet-là, on parle souvent des gens qui ont une diminution de l'appétit, troubles du sommeil, de la difficulté à s'endormir, on a un sommeil qui est comme troublé un petit peu, il peut y avoir de l'agitation, même les gens, des fois, qui vont dire « Ah, je voulais dire quelque chose, je m'en souviens plus », ou tu sais, un ralentissement au niveau de la parole, on peut ressentir ça, de la fatigue, une perte d'énergie. Il y a des gens, qui peuvent se sentir plus irritables. Puis même, des fois, il y a des gens qui vont ça va les affecter à un point tel que même au niveau intestinal, ils vont en être affectés parce que il y a quand même beaucoup de récepteurs de sérotonine. C'est le médiateur le plus important en troubles d'anxiété ou d'humeur. Puis il y en a quand même de façon assez présente au niveau intestinal, ce qui fait que les gens peuvent se le sentir à ce niveau-là, que ce soit de la constipation ou de la diarrhée qu'ils peuvent ressentir. Donc, tout ça en fait partie. Les gens peuvent sentir un sentiment de dévalorisation, de culpabilité, peut avoir une certaine forme de détachement, ce qui l'intéresse le plus souvent, donc ce qui a trait, mettons, aux enfants, des choses qu'on faisait, mettons, toi, tu me disais que tu aimais ça jouer au hockey, tout d'un coup, ça ne te tente plus du tout. C'est quelque chose qui est quand même assez central, comme ça, dans la vie d'une personne. Donc, quand on commence à associer beaucoup de ces symptômes-là, c'est là qu'on commence à se poser des questions. On dit normalement qu'il faudrait en avoir au moins 5 sur les 9, puis il faudrait absolument que ça dure quand même un certain temps, au moins 2 semaines, pour dire, OK, regarde, ça commence à être significatif pour la personne. Donc, quand on en arrive là, là, à ce moment-là, il y a une prise en charge qui doit être faite, qui peut être de la psychothérapie, qui peut être de la médication, dépendamment du niveau d'atteinte, des fois les deux dans certaines oui. situations. La médication aide, mais ce n'est pas c'est pas ça qui fait tout l'ensemble de l'acte, évidemment.
Il n'y a pas de pilule miracle.
Non, c'est ça. Ce qu'on cherche, en fait, quand on utilise la médication, c'est à tout le moins de réduire les chances de suicide. Ça, c'est le premier objectif. Puis de rendre la personne fonctionnelle dans son environnement, parce que tu serais surpris de voir, en fait, que beaucoup de gens, en fait, souffrent de dépression ou d'anxiété. Beaucoup de gens ne sont pas traités et à quel point ça a un impact significatif sur leur productivité, en fait, au travail et sur leur niveau d'absentéisme au travail, ce qui coûte quand même assez cher, tout ça, en fait. Donc, au final, ce qui est important, c'est que les gens se divulguent, se ressentent, en fait, en difficulté, qu'ils aient consulté. Et oui. Après ça, la prise en charge, on verra. Est-ce que ce sera la médication, est-ce que ce sera la psychothérapie? Je pense que c'est au professionnel qui est consulté à ce moment-là de faire le bon choix pour la personne.
Faut pas garder ça en dedans, effectivement, sinon ça grossit et ça s'empire, ça c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Martin, pour les informations et les conseils. Et on se reparle évidemment la semaine prochaine.